OK, Pascal Cévon, règle ça là, là.
Oui, vas-y.
Ouais. On a-tu un Gilto qui nous écoute?
Il doit pas être loin.
418-971-1021, si t'es le Gilto qui nous écoute, on veut te connaître. On en a pas vu hier du côté du mal commode. En tout cas, il n'y a pas d'auditeurs qui sont venus me voir pour me dire « Salut, mon nom, c'est Gilto. » Et là, dans notre lancement d'émission du toujours, le midi Gilto. Alors, est-ce qu'il y a un Gilto dans la salle? Pensez-vous que ça existe? Un Gilto?
J'en ai jamais connu.
Je comprenais pas de quoi vous parliez.
Ben oui! Ça dit toujours ça. Le midi Gilto.
Ah, c'est un petit accent français.
Ouais.
Gilto.
Gilto. Gilto. Alors, s'il y a un Gilto, 418-971-1021, sinon vous pouvez nous texter aussi, réagir sur ce qu'on va dire. On ne dira pas juste des niaiseries quand même.
C'est une variante du prénom italien Gildo, qui est d'origine germanique et celtique. Faut vraiment être chanceux en pognon au Québec, je pense.
Ouais, c'est ça, là.
Gildo, peut-être.
Ouais, mais pas Gildo.
Ouais, peut-être. Bref.
Gilto.
Gilto.
Mais moi, d'origine italienne, il n'y a pas de problème, là. Oui, si Gilto, on écrit, là, 418-971-1021.
Exactement. 418-971-1021. On a Steve qui nous écrit non, moi, c'est Giltard. Ah, là, les jeux de mots vont commencer.
Ah non, quelqu'un va écrire, moi, c'est Giltard.
Ouais,
c'est
ça.
Le nom de ma femme.
Exactement. Ouais, c'est ça. Bon, quelqu'un qui écrit Dildo, évidemment.
Ah, bien sûr.
Ça allait sortir, c'était bon, ben, convaincu.
On va y aller pour Gilto, c'est ça.
Ouais, c'est ça, exactement. La web radio, blvd.fm pour nous écouter également. Et les meilleurs moments des émissions se retrouvent à cet endroit-là. Notre application Boulevard sur App Store, Google Play Store, twitch.tv/blvd/fm. Et Pascal, dis-moi donc.
Oui.
Si l'application est la meilleure façon de nous écouter, il y a plein de gens qui sont rendus avec des haut-parleurs intelligents. On dit quoi, ce haut-parleur-là, non?
BLVD-1021. Si vous ne voulez pas vous retrouver en América, ouais, là, avec les Américains, c'est ici. Donc, BLVD-1021.
Si vous ne voulez pas non plus que ça soit Gilto, finalement, qui vous parle dans votre haut-parleur.
On va le laisser coucher, lui.
Exactement. Beaucoup de choses aujourd'hui dans l'émission. Évidemment, on a le caucus Iaccarini qui arrive dans quelques instants. François Beaulieu, candidat dans Saint-Rodrigue pour l'équipe Leadership Québec, va venir s'asseoir avec nous aux alentours de 12h45. On va parler de la campagne électorale. Une campagne électorale qui devient de jour en jour encore plus sale et encore plus dans les bas-fonds. Alors, on va parler de ça avec lui. C'est sa première expérience en politique, malgré sa longue expérience dans les médias, notamment comme journaliste sportif. Donc, c'est clair. Pascal, tu nous as préparé un beau dossier sur l'agriculture. Nos agriculteurs en arrachent en tabarouette.
Bien, je veux dire, ils sont en train de nous nourrir à perte. Ça veut dire qu'ils payent pour nous nourrir. C'est un peu ce qu'on est en train de comprendre. Puis au profit de qui?
Ouais.
De la Chine, entre autres.
C'est ça. Aïe, 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 ça ne va pas bien. Et Rémi Villemeur va venir faire sa chronique. On va entre autres parler, c'est l'émission de JA de ce soir. C'était dans le Journal de Québec aussi ce matin, de ses amours par intelligence artificielle. David, un homme de Québec qui s'est marié avec un robot artificiel, mm-hmm, puis qui vit de la jalousie par son robot. Parce que là, il veut rencontrer quelqu'un dans la vraie vie.
C'est beaucoup d'informations. J'essaie de vraiment pas être dans le jugement. J'essaie sincèrement de comprendre parce que, je sais pas, moi, d'où tu viens peut mener peut-être à marier une intelligence artificielle. C'est peut-être plus facile. Mm-hmm. Mais de là à avoir de la jalousie, il y a beaucoup d'émotions sincères, réelles, authentiques par rapport à un robot, là.
Relation toxique en intelligence artificielle. Non, mais c'est vrai, c'est carrément ça. On va parler de ça avec Rémi Villemeur parce que Rémi voit là-dedans la grande solitude qui s'installe au Québec. Puis je pense qu'il y a raison.
Dans les tendances sociales, là, le Japon est souvent précurseur. Puis ça se passe depuis au moins 6-7 ans.
C'est vrai.
Le journaliste Guillaume Piedbeuf est allé faire un tour au Japon dans les dernières années, mm-hmm, puis il a fait des portraits éloquents de ça. C'est encore disponible là, sur, la page de Radio-Canada, mais si ça vous intéresse, il y a ça aussi. Bien, j'ai hâte de parler à Rémi pour ça.
Ah, moi aussi, j'ai très hâte et je vais écouter l'émission JE ce soir. Évidemment, on passe maintenant au...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Antonine Iaccarini, es-tu prête à mettre ta main sur le cœur?
Oui.
Parce que on débute ce caucus en écoutant l'adresse à la nation de notre premier ministre, le chef de la CAQ, le premier ministre très populaire, François Legault.
Les médecins font un travail essentiel. Puis on a tous beaucoup de respect pour leurs compétences. Mais les médecins ont la responsabilité collective de prendre en charge les Québécois, en particulier les plus vulnérables. Ils ont la responsabilité d'être disponibles le soir, les fins de semaine. Les syndicats de médecins voudraient qu'on garde le statu quo, qu'on continue comme avant à leur verser toujours plus de primes, toujours plus d'argent, mais les gouvernements précédents ont essayé cette recette et les résultats ne sont pas au rendez-vous, donc on ne peut plus continuer comme ça. En plus, les syndicats sont en train de retarder l'arrivée des nouveaux médecins avec leurs moyens de pression dans l'enseignement. On ne peut pas accepter ça. Tous les gouvernements avant nous ont toujours cédé aux pressions des puissants syndicats de médecins. Nous, on ne va pas céder.
La guerre est pognée, Antonine.
Puissant syndicat de médecins.
Ouais.
Le choix des mots est important.
Ouais. La guerre est pognée là, entre François Legault, les médecins, ouais. Christian Dubé. Puis là, c'est une vraie guerre là, parce qu'on dit on va faire une loi spéciale. Puis en plus, dans la loi spéciale, on va mettre des amendements pour éviter l'exode des médecins. Donc là, on est en train de brimer un droit fondamental d'une personne de dire ben, « je veux plus vivre ici, je vais aller ailleurs ».
Ben, le gouvernement n'a plus besoin vraiment de négocier. Donc, il peut rajouter des choses dans sa loi spéciale puis réaliser tous les rêves les plus fous qu'il avait. En fait, la FMSQ, les médecins spécialistes qui ont rejeté la quatrième offre, le gouvernement avait qualifié cette offre-là de finale. Donc déjà, ça avait des allures un peu d'ultimatum.
Oui. Donc, l'ultimatum qui était 10 heures ce matin.
OK, ouais, ben là, c'est un autre ultimatum, mais ouais. il y a comme eu beaucoup d'ultimatums, dans le fond. Et la FMOQ, là, dont on attendait la réponse, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle allait arrêter là, les moyens de pression liés aux étudiants en médecine, au moins, c'est déjà ça. Mais tu sais, quand on voit des négociations avec le secteur public, avec d'autres corps professionnels, il y a beaucoup de déchirage de chemise. On a souvent l'impression que les gens sont très, très loin, que les positions sont très lointaines les unes des autres. Puis finalement, à un moment donné, ça débloque, puis on finit par signer une entente. Là, on sent vraiment des différences irréconciliables entre les parties. Et c'est jamais souhaitable d'en arriver à une loi spéciale puis des conditions de travail puis des conditions de rémunération qui sont imposées. Parce que si c'était souhaitable, les gouvernements en abuseraient, là, mais il faut quand même qu'ils fassent un peu semblant de négocier de bonne foi.
Exactement.
Parce que tu ne peux pas imposer ça.
Mais y a-tu de la bonne foi là-dedans? Puis là, de part et d'autre, là, parce que tu sais, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui aujourd'hui dit c'est bon, on retourne à l'enseignement, puis on retourne à la table. Mm-hmm. Dans les faits, ils ont toujours dit nous autres, on ne veut rien savoir d'un projet de loi. On veut l'arbitrage.
Oui.
Là, il retourne à la table parce qu'il y aurait une loi spéciale qui se prépare. Mais puis en même temps, mais le gouvernement, tu sais, il a toujours eu son projet de loi dans les mains en disant « Hey, les petits amis, si vous écoutez pas, ben nous autres, on met ça. » Fait que j'ai l'impression que autant d'un côté comme de l'autre, on ne s'est jamais réellement écouté.
Mais on ne s'entend pas sur le diagnostic. Alors comment veux-tu qu'on s'entende sur le remède?
C'est vrai.
On nous répète, les médecins nous répètent qu'il n'y a pas assez de médecins. Le gouvernement nous répète toujours qu'il y a assez de médecins, que c'est un problème d'organisation, qu'il faut aussi mettre des indicateurs de performance qui sont liés à la rémunération, donc une partie de leur salaire qui serait liée à la prise en charge notamment, parce que c'est ça le problème. C'est qu'on n'a jamais réussi à faire en sorte qu'un grand nombre de Québécois aient accès à un médecin, soit pris en charge par un médecin ou par d'autres professionnels, là, mais on n'est pas rendu là visiblement, malgré qu'on a donné des primes, malgré qu'on a signé des ententes par le passé qui devaient augmenter la prise en charge, puis surtout des patients les plus vulnérables. On parle de gens, tu sais, par exemple, qui souffrent de diabète, qui ont besoin d'avoir des suivis réguliers, qui n'ont même pas de médecin de famille. C'est un constat qui est grave. Est-ce qu'il y a eu de la bonne foi? Bien, le gouvernement a bougé, parce qu'au début, ils étaient à 25 % du salaire du médecin qui était lié à des indicateurs de performance.
Là, ils sont rendus à 15, si je ne me trompe pas.
Ils ont réduit ça à 15 %. Mais ce que les médecins voudraient, en fait, là, puis là, ça se discute dans les couloirs, mais c'est que s'il y a une partie de la rémunération qui est liée à des indicateurs, bien, ce serait en plus de ce qu'ils ont déjà. Donc, on ne touche pas à ce qu'ils ont déjà. Mais le 15 % en fait, c'est une augmentation de salaire.
Fait qu'un bonus à la performance.
Ça, un bonus à la performance.
Alors que...
Mais on l'a déjà fait, ça, Jeff.
Oui, puis ça n'a pas fonctionné.
Puis ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est un peu ça le message du premier ministre. D'ailleurs, très spontané, là, toute cette opération de communication hier du premier ministre, là, dès que l'offre a été rejetée, tout à coup, il y avait une vidéo qui annonçait une vidéo. Non. Après ça, ils ont sorti la vidéo. Il y a une infolettre qui est partie. Tu sais, c'était tout déjà un peu ficelé.
Ça n'avait pas été préparé à l'avance.
Pas
à ça.
Tout. Non.
Voyons donc, ils ont juste réagi parce que les médecins ont dit un non final.
Exact. C'est pas de leur faute.
Ben non.
Et la FMSQ a dit, vous voyez bien que c'était une grosse pièce de théâtre pour faire semblant qu'on négociait, mais que dans le fond, on a toujours voulu finir par une loi spéciale.
J'avoue que ça paraît mal. Hein?
Ben oui, mais en même temps, il faut que ça se règle à un moment donné. Donc, loi spéciale. C'est quoi une loi spéciale? Une loi spéciale, c'est qu'on dépose et là, ça va à toute vitesse. C'est-à-dire que tout le monde est pris à l'Assemblée nationale. Bon, vous avez le droit de sortir si vous voulez, là, mais votre whip ne sera pas content. Et on y va dans une procédure qui est accélérée. Et dans un projet de loi normal, les oppositions ont, disons, la possibilité de rallonger beaucoup les choses. Là, dans un baillon, on n'a pas la possibilité de rallonger. Donc, ça y va par là. C'est au gouvernement qui est majoritaire, le gouvernement de la CAQ. Donc, ils vont réussir à passer ce projet de loi-là. Et il n'y a rien qui t'empêche, effectivement, dans la journée, il y a des moments pour amender le projet de loi. Des fois, il y a des petites affaires qui arrivent là, dans des heures là, où il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique. où les gens sont plus fatigués aussi. On a vu ça par le passé, là, des amendements qui changeaient quand même pas mal
exactement.
De choses.
Oui, donc, notamment sur la loi, justement, de la réforme en santé qui a amené Santé Québec. On a passé sous baillon une couple d'amendements entre 1h30 et 3h du matin. Là.
Ah oui, puis je pourrais donner des exemples en éducation. Quand ils ont aboli les commissions scolaires, ils ont passé un amendement pour que les municipalités aient comme une obligation de céder des terrains pour des écoles.
Oui, c'est
les municipalités
vrai.
Sont encore fâchées. Ça fait 7
ans
de ça.
Vraiment fâchées. L'Union des municipalités du Québec est très fâchée. On a une question aussi par texto qui dit les médecins sont travailleurs autonomes, ils sont syndiqués. Étrange. Non, c'est pas nécessairement qu'ils sont syndiqués, ils font partie d'une fédération.
C'est des fédérations. Mais le premier ministre aime beaucoup dire le mot syndicat. Pourquoi? Parce que l'image des syndicats n'est pas toujours positive dans l'espace public. Donc, ils essaient, en fait, d'augmenter votre appui envers le gouvernement. Est-ce qu'ils essaient de faire?
Est-ce qu'il va y avoir loi spéciale ou non, selon toi?
Oui. Moi, je pense
qu'il y a pas... Oui, on s'en va là.
Ben, tu sais, écoute, encore une fois, qui sait? Tout pourrait débouler dans la même journée. Avoir le niveau d'émotivité aussi des médecins présentement. Et quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé avec le Collège des médecins, tu vois, là, leur niveau de colère et d'exaspération est tellement grand. Pas toujours pour le mieux, d'ailleurs, parce que je trouve que ce qui s'est passé avec le Collège des médecins puis le blâme que Dr Maurice Gaudreau a eu, c'était vraiment exagéré pour ce que dit. T'sais, dans le fond, il a lu le code de déontologie.
C'est ça.
C'est à peu près ça qu'il a fait. Donc, ce serait étonnant que ça se règle d'ici la loi spéciale. Les députés, le vendredi, rentrent chez eux d'habitude, mais demain, ils seront à l'Assemblée nationale.
Donc,
on va
tout le
ça,
monde
attention.
À Québec demain.
Temps supplémentaire. Mais ça fait tellement réagir. T'sais, par texto, on voit des gens qui ont complètement changé d'idée ou qui sont devenus divisés quand, au départ, ils donnaient un petit peu plus de force à ce que le gouvernement voulait implanter puis du moins tenir les rênes du dossier. Ça commence à changer. Quand je lis, là, au moins une dizaine de textos où les gens sont en dissonance. Là. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre de cette manière-là, mais pour certains, ils voyaient les médecins comme étant des gens qui étaient fortunés à la base, qui en prenaient large puis qui en voulaient encore plus. Mais quand ils ont entendu dire qu'ils allaient être rémunérés selon la performance de leurs collègues, parce qu'on faisait un plein, ils se disaient, ben là, attends
c'est
un peu.
C'est collectif. Là. C'est que... Oui, moi, je veux bien que ma rémunération soit notamment liée à ma performance, mais tu veux pas que ça soit lié à la performance de quelqu'un que tu contrôles pas. Là,
en effet.
Donc ça, c'est un point d'achoppement. Mais le gouvernement aussi a mis de l'eau dans son bain sur certaines choses. C'est, par exemple, on dit des médecins qui sont plus âgés, qui veulent plus nécessairement travailler la fin de semaine ou faire des nuits complètes. Là, j'exagère un peu, parce que dans le fond, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de plage horaire le soir pour la fin de semaine dans les cliniques. Il y a aussi des disparités régionales. Il y a des endroits où est-ce que les besoins sont différents. T'sais, tout ça, ça fait l'objet de négociations. Les gens ont été surpris aussi de savoir qu'on parlait beaucoup des indicateurs, mais que les médecins demandaient des augmentations aussi. Dans les dernières années, il y a eu des augmentations chez les médecins, puis ils sont parmi ceux qui sont bien traités à travers le pays. Quand on a laissé circuler un chiffre autour de 30 % d'augmentation de salaire dans les derniers jours, bon, c'est le gouvernement qui spinait ça.
Oui, exactement.
Ça fait partie de la négo. Ils ont fait un saut. Là.
Ça fait partie de la négo, il n'y a pas de doute là-dessus. Antonine, les contrôleurs routiers vont avoir des guns, des armes à feu, mais dans 18 mois.
Minimum. Toi, t'es optimiste en plus. Là.
Hey, ça prend donc bien du temps.
Ça, c'est ce que le gouvernement nous dit, 18 mois. Attends, là, attends un petit peu. Ben oui, puis c'est correct que ce soit pas fait sur le coin de la table. Le problème avec ça, c'est que on est déjà dans une situation où on a des risques sur la route. On en a parlé abondamment ici à l'émission. Et on a un enjeu notamment de chauffeurs à rabais qui créent toutes sortes de risques.
Clairement.
On a des accidents.
Pascal nous a fait un excellent dossier avec une citoyenne là, qui s'était fait prendre entre un autobus scolaire et un polo.
Le cauchemar. Ouais. Donc, il y a cette situation-là qui a déjà cours. Mais on ne peut pas donner... T'sais, on le sait qu'il fallait qu'on change certaines conditions de travail des contrôleurs routiers pour qu'on les renvoie faire leurs interventions. Mais c'est sûr que ça ne marche pas de même. On ne va pas dire bon, ben, tiens, voilà un gun pour toi.
Ah ouais, pars avec.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, formation, mais il faut aussi créer une espèce d'infrastructure dans laquelle on va prévoir comment on entrepose ces armes-là, comment les contrôleurs routiers les enregistrent, peuvent les prendre, comment on fait le suivi de quelle arme est à quel endroit.
Quel type, fort probablement aussi.
J'imagine. Après ça, il va falloir aussi. Organiser la coordination avec les services policiers, parce qu'avant d'aller faire une intervention avec une arme à feu, c'est toujours le fun de savoir si tu es en train de faire une intervention auprès d'un chauffeur qui est recherché pour meurtre ou si c'était un des problèmes, parce que quand la Cour avait déterminé que les contrôleurs routiers faisaient un travail qui est trop dangereux dans les conditions actuelles et qu'ils ont confiné dans leur poste de pesée, il y avait plusieurs recommandations à mettre en place. Le problème, c'est qu'on commence beaucoup trop tard. On a pelleté par en avant. Mmh. Et là, on se retrouve à l'extrême limite avec des dangers sur la route. Puis évidemment, le gouvernement ne peut pas précipiter les choses parce qu'on parle quand même d'armes à feu. On ne peut pas mal faire les choses. Il y a eu aussi évaluation. Est-ce qu'on devrait plutôt leur donner des tasers? Finalement, c'est encore plus compliqué à gérer les tasers que les armes à feu. Puis, tu sais, il faut quand même rappeler que les agents de la faune au Québec ont des armes à feu. Il y a des agents de sécurité qui ont des armes à feu. Il y a des gens qui font du transport de prisonniers entre les centres d'incarcération qui ont des armes à feu. C'est pas étrange là, que les contrôleurs routiers, finalement, vont être armés. Mais ça demande un certain travail pour y arriver. Puis le gouvernement a tellement pelleté par en avant que finalement, on se retrouve comme ça avec une situation de danger sur nos routes qui va se poursuivre pendant encore un moment. Là.
Est-ce qu'on va avoir aussi ce genre d'enquête-là si on considère que l'arme à feu a été utilisée dans une situation où elle n'avait pas à être utilisée? Donc, ça va être un peu le même protocole que pour un policier?
C'est ça, quand un policier utilise son arme, que quelqu'un qui est blessé ou tué dans la situation, bien, il y a une enquête indépendante. Il y a toute une infrastructure autour de ça. Puis au Québec, je pense qu'on a des bonnes lois qui font en sorte qu'on veut que les armes à feu soient utilisées en toute sécurité. Et c'est normal. Le problème, c'est quoi? C'est d'abord attendu aussi longtemps. Puis, à la défense du gouvernement du Québec, il y a quand même eu une tempête parfaite parce qu'il y a aussi un bout de responsabilité qui appartient au fédéral, l'Agence du revenu du Canada, qui est tellement performante, on l'a vu avec un rapport de la VG cette semaine, qui a arrêté de faire un peu la police, entre guillemets, sur certaines choses qui concernent les chauffeurs de camions, justement. Fait, c'est ça aussi qui a augmenté le risque, c'est qu'on a des chauffeurs à rabais qui ne sont pas formés, qui se promènent sur nos routes. Donc, c'est la tempête parfaite. Cela dit, quand même, le gouvernement a pelleté ça par en avant. Savez-vous, ça fait combien de temps que les contrôleurs routiers demandent des armes à feu? Donc,
Je vais te dire, mettons, 12 ans.
12 ans?
Oh, OK, Pascal? Je serais allé un petit peu moins, là. Ouais. Je serais avec un 5, 6.
Ça fait 40 ans.
40 ans. Ah!
Okay. Et on est encore
mais
là.
Mais on plaidait ça comment au départ, il y a 40 ans?
C'est la même chose. C'est de dire, toi, là, il faut connaître un peu le milieu du camionnage, puis il y a des camionneurs qui ont témoigné récemment, mais toi, tu arrêtes des camionneurs sur la route et tu dis, là, tu vas m'ouvrir ta boîte. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans des boîtes de camions?
Pour
la
certains,
drogue,
c'est ça.
Des gens, tu sais, il peut avoir toutes sortes de choses.
Des
explosifs, peu importe. Puis c'est sûr que... j'ai fait un débat là-dessus il y a quelques jours, et puis les gens avec qui je débattais disaient, c'est dangereux, les armes à feu, il peut avoir une bavure, on peut se tromper. Les agents de la faune ont des armes à feu.
Oui, puis là, les contrôleurs...
Fin du débat.
Exactement, les contrôleurs routiers vont être en mesure là, d'utiliser l'arme à feu à bon escient.
Ben, certains demandent des caméras corporelles aussi, annexées à ça. T'sais, t'as plein
c'est
de demandes.
Comme les policiers, c'est toujours les mêmes débats. Mais sachez quand même que si les agents de la faune ont des armes à feu, c'est parce qu'il est arrivé des catastrophes. C'est toujours ça. On attend toujours qu'il y ait une catastrophe avant d'agir.
Et là, la catastrophe a été le laxisme au niveau du Canada qui a donné énormément d'accidents
sur
les routes du Québec.
Puis la décision du tribunal, surtout.
Oui.
Puis,
prenez des gens qui n'ont rien à perdre. C'était rendu dans le crime organisé, c'était rendu dans le transport de personnes, c'était rendu souvent, c'est qu'il y a peut-être la détresse humaine derrière ça, puis tu n'as rien à perdre. Puis tu ne veux certainement pas aller en prison, mais pour les autres aussi, ben, le crime organisé, une tête ou une autre, là, c'est pas trop stressant si jamais tu es capable de sauver ta peau.
On parle beaucoup de délais administratifs là, par texto au niveau de nos auditeurs qui, justement, sont au fait là, du dossier. Mais je veux vous faire entendre le plan, justement, présenté par Jonathan Julien. Il en a parlé sur les ondes d'LCN. honnêtement, je trouve que c'est un plan qui est bien détaillé, le plan de rattrapage.
L'enjeu qu'on a, c'est entre 4 et 18 mois. Puis 18 mois, là, je suis conservateur quand je dis ça. Les équipes okay. me disent, oui, on devrait y arriver. Moi, j'espère que les 330 contrôleurs routiers vont être formés d'ici 12 mois. Quand je le dis, je me mets de la pression sur moi puis sur mes équipes, puis c'est bien carré. Mais dans quatre mois, les premières cohortes vont être formées. À peu près 55 contrôleurs aussi qui ont déjà eu le port d'armes dans d'autres fonctions préalables. J'arrive à votre question. Mais d'ici là, on disait, Yann et moi, il faut que les contrôleurs routiers puissent se retourner sur la route le plus rapidement possible, pas dans 4 mois. Alors, on a fait des travaux avec les corps policiers et les contrôleurs pour faire des travaux qu'on appelle d'assistance. C'est-à-dire que on a identifié 50 sites plus problématiques, des sites stratégiques. Ça a été identifié par l'équipe des contrôleurs routiers pour dire ces sites-là, on devrait faire des interventions parce qu'ils sont à plus haut niveau de risque. Et on va être accompagné par la police. Donc, ils vont être jumelés policiers et contrôleurs routiers.
Je trouve ça bien. On forme rapidement ceux qui ont déjà eu le port d'armes dans d'autres, justement, emplois ou situations. On jumelle les autres avec des policiers dans des sites qui sont prioritaires. Je pense que nos routes vont redevenir plus sécuritaires quand même assez rapidement.
En termes de politique réactive, tout est bien fait. Là.
Oui.
Mais ça demeure très réactif.
Ça demande de la réaction. Si je veux être bon joueur pour Jonathan Julien, il vient d'arriver.
Mais c'est ça, c'est pas de la faute de...
Je trouve que Jonathan Julien fait un bon travail dans le dossier.
C'est ni la faute de Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ni celle de Jonathan Julien.
Ils viennent d'arriver en poste.
Mais
c'est la CAQ qui est au pouvoir depuis 7 ans, bientôt 8. Sûrement pas 9.
Voyons, je ne sais pas pourquoi tu dis ça.
Je ne sais pas. J'ai regardé certains sondages, dont celui sur François Legault hier.
Les sondages.
Bon, on demeure dans le réseau routier. L'étiquette. Tabarouette, il y a un candidat à mairie qui... Il y en a d'étiquettes, Antonine. Tu penses quoi de ça, de Stéphane Lachance, qui a accumulé une vingtaine d'étiquettes en 14 ans, qui en a plein qui n'a pas payé? Il a roulé 89 km/h dans une zone de 50.
Bon, un ticket, ça arrive.
Ouais.
Deux tickets, ça arrive. Quand on a autant de contraventions pour des... Tu sais, c'est pas une étiquette de stationnement, là, non plus, en passant.
Non, c'est l'étiquette
de vitesse, c'est ça. Oh, oui, des choses comme ça. Bon, est-ce que c'est d'intérêt public? Moi, je pense que oui.
OK, explique-moi.
C'est la première question à se poser.
Parce que là, Stéphane Lachance dit que c'est de l'acharnement.
Absolument, puis c'est sa défense, il y a droit. Mais moi, je pense que c'est d'intérêt public. D'ailleurs, si vous conduisez en état d'ébriété puis vous voulez vous présenter en politique, préparez-vous. Là, ça va sortir. Et il y a des gens qui ont été élus malgré tout, qui ont dit « je suis repentant, je l'ai fait une fois, c'était une erreur ». Et il y a des gens qui ont été élus malgré ça. Là, les gens peuvent pardonner des erreurs.
Mais ça a été adressé.
Il faut admettre, par contre, c'est tort.
Oui.
Puis pas accuser les médias de faire de l'acharnement pour que les gens soient en mesure de dire, écoutez, des erreurs, ça peut arriver à tout le monde.
23 contraventions
voilà.
en 14 ans.
Ça, c'est le deuxième aspect. Une fois qu'on s'est dit entre nous que c'est d'intérêt public, là, il y a l'ampleur de la situation.
Je ne sais pas, tu peux en avoir autant pour garder ton permis.
Il l'a perdu, son permis, d'ailleurs. Il a fallu qu'il récupère éventuellement parce qu'il ne payait pas, en fait, ses contraventions. Donc,
c'est peut-être pour ça qu'il le gardait pendant plus longtemps, pas le payer.
Peut-être. Parmi les arguments de sa défense, il dit qu'il est beaucoup sur la route. C'est vrai que ça peut.
Oui, bien, si tu veux, on va l'entendre, justement. Mm-hmm. Il a donné une entrevue à Max Larouche dans le Point de Max.
Je roule en moyenne 75 000 km par année. La moyenne en tant que telle de monsieur et madame tout le monde, c'est environ 15 à 20 000 km. Donc, c'est sûr que mon pourcentage d'avoir des infractions au code de la route sont plus élevés. Ça fait pas pour autant qu'on doit suivre les infractions, le code de la route, ça c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas, je veux dire, je l'ai payé l'amende. Je sais que dans un des cas qui a été rapporté, Saint-Hilaire, je me suis opposé à l'infraction. Malheureusement, j'ai manqué la date de parution devant la cour municipale, ce qui a fait que j'ai été déclaré coupable automatiquement. J'ai fait une demande pour pouvoir me représenter à la cour municipale. Puis au final, en tant que tel, ma version n'a pas été retenue, donc. J'ai payé. Donc, quand j'ai lu le descriptif là pour se porter candidat comme maire, on m'avait pas dit qu'il fallait présenter son dossier de conduite. Là, on parle d'une recherche qui s'est faite sur 24 années. 19 tickets pour en 24 ans, ça fait même pas un par année. Là, tu sais.
Je corrige M. Lachance, ça, c'est sur 14 années, c'est 23 tickets. Là, que
peu importe, commencez à se légitimer,
exactement.
Moi, ça.
Mais là, je fais beaucoup de routes, mais là, depuis ce matin, moi, on a des auditeurs qui nous écrivent, qui disent, j'en fais 70-80 000 km par année. Je fais environ 100 km par année, 100 000, 100 000 km par année. J'ai pas de tickets. Puis là, depuis un matin, ça rentre. Ça. On n'est jamais... 89 dans une zone de 50 n'était pas pour éviter un grand excès de vitesse qui était donc à 90. Fait que peut-être même qu'un policier a été gentil. Fait que ça rentre depuis ce matin, les gens qui disent « j'en pogne pas, moi, une ticket, puis je roule. »
Moi, j'ai 41 ans et j'ai jamais pris un ticket de vitesse, un stop brûlé, un feu rouge. J'ai juste des tickets de stationnement.
Parce en 27 ans.
À Montréal, en plus, même pas à Québec.
Super facile.
En 27
pas,
ans, j'ai un ticket, là.
Ben, c'est ça.
Moi, j'en ai plus que ça, par exemple. Je suis pas dans la cour à Stéphane Lachance.
Les gens se font...
Toi.
Les photoradars.
Les gens se font une opinion sur les candidats, oui, sur leur programme, mais aussi sur leur manière de gérer les choses. Donc, sur leur caractère, leur attitude. Puis, cette aventure-là là, de Stéphane Lachance avec le code de la route et ses tickets, bien, ça en dit sur sa façon qu'il a de gérer tout ça. Il dit « Ah, ben ça, j'ai perdu mon permis parce que je me suis pas présenté à la... » Ben, pourquoi tu t'es pas présenté? Tu sais, je veux dire...
La justification, je m'excuse, me faisait rire.
Ben oui.
Pendant l'entrevue, je la trouvais un petit peu absurde.
Puis là, il y a poursuite pour 14 377 $ de loyer impayé. Ça, j'ai pas l'extrait, mais il l'expliquait à Max que c'était pendant la COVID, il attendait des subventions pour son entreprise. Il y a des justifications à tout, mais c'est juste que moi, puis là, vous me corrigez, je me trompe, mais je vais quand même donner mon opinion, puis corrigez-moi si vous voulez. Mais tu te présentes comme étant monsieur rigueur.
Et voilà.
Je vais gérer les finances comme la ville n'a jamais été gérée. M'a géré la RTC comme il n'a jamais été géré.
Tu critiques la gestion des autres.
En plein ça. Mais ta gestion personnelle est déficiente. Donc, pour moi, c'est une perte de crédibilité.
Mais ça se peut qu'au personnel, ça soit un petit peu chaos parce que le professionnel prend son... Ça se peut ça aussi,
c'est un bon
mais
point.
Ça donne pas l'image, par c'est contre, ça. D'un gars rigoureux.
En fait, on appelle ça genre, lancer des pierres dans une maison de verre. C'est que tu le sais, toi. T'sais, avant d'aller en politique, là, je ne veux pas vous donner un grand cours de relations publiques, mais il faut que tu fasses la liste de son où tes points de risque et tes points de faiblesse. Puis là, ça, c'est une faiblesse. Fait que là, à un moment donné, avant de faire la leçon aux autres sur la gestion, bien, il faut effectivement que tu regardes dans ta cour. Il y a une nouvelle affaire aussi qui s'est rajoutée dans les dernières années, c'est tout ce qui concerne les biens immobiliers. Parce que normalement, avant de se présenter en politique, on fait le tour avec notre équipe de tout ça. Puis si vous voulez être candidat, vous allez passer un petit peu un test. Là. Ils vont regarder votre plumitif, ils vont vouloir savoir, t'as-tu déjà fait l'objet d'une plainte de ça?
T'as-tu quoi dans ton garde-robe?
T'as-tu des squelettes dans le placard? Et maintenant, la gestion aussi de ton immobilier, fait vraiment partie de la liste et surtout dans un contexte de crise du logement. La façon dont tu traites tes locataires, que tu augmentes tes loyers, tout ça aussi est surveillé de manière encore plus serrée qu'avant. Maintenant, est-ce que ça te disqualifie de te présenter? Pas du tout. Puis les gens ont le droit à l'erreur, mais ça dépend aussi comment tu le présentes. Moi, j'avais bien apprécié il y a quelques années, Émilie Foster, qui s'était présentée pour la CAQ dans Charlevoix, à Cour de Beaupré, elle avait fait un point de presse, puis elle avait dit, là, je vous le dis tout de suite, là, j'ai déjà... Puis elle avait fait une petite liste d'affaires un peu cute, mais tu sais, c'était des squelettes cute, là. C'était pas genre, j'ai déjà fait de la prison pour trafic de drogue, mettons. Mais c'était des petites affaires. Mais je me dis, est-ce que ce serait une bonne pratique, à un moment donné, de dire... ouvertement, tout de suite, toi-même, pour gâcher le punch, parce que les autres équipes, de toute façon, vont faire des recherches sur toi.
Ouais.
Et la sortir au pire moment qui ne fait pas ton affaire.
Bien, je suis d'accord avec toi, parce que faut que tu contrôles le narratif dans une campagne électorale. Fait que tu es tout souvent de sortir en partant et de dire « Hey, regardez, moi, c'est Jean-François Fortin, puis je vous le dis, j'ai déjà eu ça. » Fait que...
J'ai déjà perdu mon permis parce que il s'est passé ça. J'ai déjà été poursuivi par un de mes locataires, puis il y a une explication à ça, je vais vous la donner tout de suite, c'est ça. Parce que sinon, tu as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête pendant toute la campagne électorale.
Là, tu coupes l'herbe sous les pieds, en fait, à
ben
tes
oui,
compétiteurs.
Exactement.
À tes concurrents
de
t'arrêter
au visage.
Si t'es pas prêt à dire ça, ben en fait, t'es juste pas prêt à aller en politique.
En effet, je pense
que c'est ça le fin mot de l'histoire. Là.
On termine en une minute. Est-ce que Bruno Marchand a bien fait de faire un appel à la majorité hier?
Ben oui, parce qu'il est premier dans les sondages. Il se sent quand même confortable, mais pour bien gérer une ville, t'as besoin d'avoir des conseillers de ton bord.
Oui.
Hein.
Et surtout que Bruno Marchand, avec le projet de tramway, a besoin d'être majoritaire, on se le cachera pas.
Absolument, mais les gens... Bon, la dernière fois, M. Marchand est allé rechercher aussi des conseillers municipaux dans d'autres partis. Il s'est construit une espèce de majorité. Mais c'est la manière dont les villes sont faites. Tu sais, au provincial, toi, tu es chef de parti, c'est toi qui as le plus de sièges, c'est toi qui deviens premier ministre.
Ouais.
Au municipal, c'est pas ça. Les gens votent pour le maire et votent pour les conseillers de manière complètement indépendante. Et on a vu souvent des villes qui ont un maire qui n'a pas la majorité des conseillers autour de la table. Je peux penser à Sherbrooke et à Gatineau dans les dernières années, puis ça a fini en démission d'ailleurs. Parce
ah
que
oui, puis la machine est vraiment au ralenti. Cela dit, est-ce que c'était judicieux que Jean-François Gosselin écrive sa lettre pour dire « Hey, votez pour le conseiller de Bruno Marchand parce que vous allez être du bon bord. » Tu sais, le fameux oui, bon bord en politique. Là. Ah, moi, j'aime
c'est
pas s'entendre ça.
Duplessis un peu. Là,
ben, c'est parce que, tu sais, c'est
voulez-vous
c'est comme...
des routes puis des laveuses?
Ben, c'est parce que je sais pas. Moi, tu sais, si dans mon coin, c'est un candidat de leadership Québec, Québec d'abord, respect citoyen qui est élu, ouais, on va-tu laisser tomber le parc parce que c'est pas le bon conseiller?
Non, ben c'est ça. Ça, c'est un mauvais message à envoyer. Par contre, c'est de bonne guerre. Tous les partis qui sont premiers dans les sondages, à un moment donné, se disent, là, donnez-moi une majorité, parce qu'on va pouvoir faire plus d'affaires. Puis que, tu sais, évidemment, il faut pas dire, c'est sûr, si vous votez pas du bon bord, vous aurez pas votre complexe sportif. Là, ça fonctionnerait pas.
C'est ça.
Mais ça fait partie, en fin de campagne, des appels au vote qu'on va entendre. Puis, tu sais, si j'étais Stéphane Lachance puis que j'étais pas pognée dans des histoires d'étiquette, je ferais aussi un appel à « Donnez-moi l'opposition, je serai un chef de l'opposition. » Parce que ça, là, contre Sam Ahmad, c'est meilleur comme message que de dire « L'autre est pas fin, c'est lui qui m'a promis ça, puis on est en chicane, puis on se poursuit. »
Est-ce que ça donne l'image de quelqu'un qui pense perdre ou de juste quelqu'un de lucide en se disant, ben, au moins, je vais chercher l'opposition en étant plus fort?
Ça, c'est un débat éternel parce que c'est vrai que tu ne veux pas concéder la victoire à M. Marchand aussi facilement, mais à un moment donné, il faut être lucide. Et de dire, tu sais, ton message, ça peut être, moi, je veux être votre mère, mais si vous hésitez entre moi et Sam Ahmad, votre vote pour moi, il va faire plus de chemin parce que même si, c'est pas ça que je souhaite, mais si je devais perdre, je vais quand même vous représenter.
Oui, je comprends.
Puis je vais me battre pour vous. T'sais. Donc, moi, je trouve que ce serait un bon message d'appel au vote à faire. Bon, pour réussir à passer ces messages à soi, il faut arrêter d'être embourbé dans des problèmes. Là,
dans des problématiques. Et là, ben, c'est ce qui arrive à l'heure actuelle avec les allégations d'irrégularité de la semaine dernière qui ont été corroborées de toute façon par Respect Citoyen. L'avouer qu'on a rencontré M. Ahmad et qu'on était prêt à lui offrir des choses. Et là, l'étiquette, ça s'embourbe, cette campagne-là. Il y a eu les taxes impayées au début. Oui. Donc, ça s'embourbe. Ça s'embourbe pas à cause de l'acharnement. Ça s'embourbe à cause des gestes posés par le chef de Respect Citoyen et les dirigeants du parti.
Et ça prend de la place aussi parce qu'on manque un peu de contenu dans les propositions,
ben,
sinon on pourrait au moins débattre un peu plus de ça, mais ça, c'est une opinion personnelle.
C'est une très, très, très bonne opinion que je partage. Je termine le segment du caucus, mesdames, en vous disant, jamais je me présente en politique. Christian me dit qu'il faut absolument que je confesse mon amour étrange pour un club de hockey qui est disparu.
Ah. Je pense pas que ce soit un problème si tu te présentes à Québec, mettons.
Non, ouais.
Ce serait pas.
Hein, le candidat du retour
mais moi,
des Nordiques.
Sortir, si tu te présentes, je vais dire attention. Il prend pour Toronto au baseball.
C'est vrai, ça. D'ailleurs, ça commence demain soir. Les Jays contre les Dodgers. Courte pause. On revient avec l'essentiel de l'actualité avec Pascal CV, Antonine Iaccarini. Bon week-end.
Merci.
On se reparle lundi. Profites-en bien à la météo là, pour le week-end. Il n'annonce pas de pluie et ça devrait être entre 7 à 9 degrés Celsius. On est en automne, mes amis. Donc, on revient avec l'essentiel de l'actualité avec Pascal CV. Après cette courte pause, vous êtes à l'émission d'Angers sur les ondes de Boulevard 101.